Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce n'est pas un usage courant, la cour de France. Pourtant, plusieurs fois par semaine, dans ses appartements privés, Marie-Antoinette aime à se délasser dans un bain aménagé dans ses appartements privés. Comble du raffinement, l'eau chaude est parfumée par des sachets de plantes, parfumées aux amandes douces et aux racines de guimauve. L'homme responsable de ces délices, le parfumeur Jean-Louis Fargeon, n'a pas vu le jour à Versailles. Il est né en 1748 à Montpellier, la capitale française du parfum, que la ville de Grasse n'a pas encore tout à fait détrônée. Depuis le Moyen-Âge, Montpellier abrite une faculté d'apothicairie renommée. On y fabrique des élixirs, des baumes et autres drogues médicinales qui font la réputation de la ville à travers l'Europe. Au XIVe siècle, un savant parfumeur y a utilisé pour la première fois de l'alcool dans la fabrication des parfums, une innovation décisive dans l'art délicat d'emprisonner les odeurs. Depuis son sud natal, Jean-Louis rêve du luxe de la cour de France. En 1770, il a un peu plus de 20 ans lorsqu'il suit avec un vif intérêt les récits de l'arrivée de Marie-Antoinette en France et de son mariage avec le dauphin, le futur Louis XVI. À 25 ans, le jeune Fargeon quitte alors sa province pour Paris, bien décidé à pénétrer ce monde qui l'attire. Pour accéder à la reine, il a un atout majeur. Il est issu d'une dynastie de grands parfumeurs. Son père est le parfumeur de Louis XV et de sa cour. Auprès de lui, Jean-Louis Fargeon apprend le métier. En 1774, après son apprentissage, il obtient son diplôme de maîtrise. Dès ses débuts dans le métier, il peut compter sur des clients de choix, à commencer par la favorite du roi, Madame du Barry. Les relations difficiles qu'entretiennent la maîtresse du roi avec la dauphine n'empêchent pas le parfumeur d'être présenté à Marie-Antoinette par l'intermédiaire d'une princesse de sa connaissance. L'artisan procure à la future reine des gants parfumés. Oui, car les parfumeurs de l'époque se chargent aussi de vendre des cuirs délicatement odorants dont le raffinement est un immense succès.
Ça n'existe plus ça, Stéphane. On peut acheter des gants odorants.
Les parfumeurs étaient des gantiers à l'origine. La reine raffole des parfums. Son fournisseur en crée de légers pour elle, puis pour ses enfants, au lys. Alors, c'est difficile de dire que c'est léger au lys, hein. À la violette, à l'œillet. C'est son jardin secret, le petit Trianon, qu'il tente de capturer en ajoutant aux fleurs des notes de bois, de cèdre et de santal. Le parfumeur est passionné par son métier. Jean-Louis Fargeon travaille dur à tenter de recueillir les odeurs qui s'échappent des fleurs et des écorces pour les fixer dans des eaux spiritueuses et des essences, puis ensuite à les mélanger pour créer de nouvelles senteurs. C'est un art délicat que celui de la parfumerie, qui n'en est encore qu'à ses balbutiements et qui demande un engagement intense. Les compétences de Jean-Louis Fargeon ne se cantonnent d'ailleurs pas au parfum. Pour la reine, l'artisan crée aussi des produits de beauté, des crèmes et ces fameux sachets de plantes pour le bain. Il faut dire que Marie-Antoinette est plus propre que ses nouveaux congénères français.
Non, c'est assez facile d'être plus propre, non, à l'époque.
Oui, mais on est quand même au milieu, deuxième partie du XVIIIe siècle.
Déjà là, on est quand même beaucoup plus propre.
Ah oui, c'est plus propre qu'au XVIIe. Ah, oui. De son Autriche natale, elle a ramené l'habitude de se laver entièrement plusieurs fois par semaine dans l'eau chaude. Elle se frotte la peau avec des savonnettes à l'ambre et à la bergamote que lui fournit également le maître en parfum. Jean-Louis Fargeon est aussi cosmétologue, avec une vision radicalement opposée aux modes de l'époque. À la cour, les fards font fureur, on s'en tartine le visage, alors même que les produits nocifs dont ils sont composés ont des effets terribles pour la santé. Les femmes en sont parfois défigurées, à tel point qu'en Angleterre, on juge pour cela les femmes françaises dégoûtantes. Comme les médecins, le parfumeur combat ces produits nocifs. Jean-Louis Fargeon a su saisir l'air du temps. La naissance d'un goût pour le naturel et la simplicité dont les philosophes des Lumières se sont fait les défenseurs. Il crée pour Marie-Antoinette un fard sans ingrédients toxiques qui respecte la peau et pour l'enlever, des eaux florales suivies de crème de nuit à base de miel. Les noms sont soigneusement choisis et évoquent toute la délicatesse du produit. Eau des charmes pour tonifier, eau d'ange pour purifier. Après la naissance de son fils, la souveraine commande même des soins anti-rides. Rien n'est laissé au hasard. La peau de ses mains est adoucie par des crèmes à l'amande ou à la vanille. Ses dents soignées par des poudres et des opiats auxquels il faut encore ajouter des pommades au citron et au concombre.
Mais est-ce qu'on se brosse les dents? Parce que mettre des pommades sur les dents, c'est une chose, mais est-ce qu'il y avait déjà des brosses à dents?
On se les frottait, mais on les brossait pas. Jean-Louis Fargeon collabore même avec Rose Bertin, vous savez, qui est la modiste de la reine. Ensemble, ils créent des fleurs de gaze, un tissu léger de soie ou de coton, délicatement parfumé, qui imite les vrais, mais ne fane pas. Profitant de son statut à la cour où il fournit également monsieur, frère du roi, et mesdames, tantes, les filles de Louis XV, l'habile homme d'affaires développe son commerce en France et jusqu'en Angleterre. En 1786, il est à la tête d'une manufacture installée à Suresnes. Le parfumeur, toujours à la recherche de nouveaux procédés, capable de perfectionner son savoir-faire, a une vision moderne de son art. Il affine des techniques de distillation, mettant ainsi au point des huiles essentielles très concentrées qu'il surnomme « esprits ardents » et que la reine rebaptise vite « esprits persans ». Rien ne semble pouvoir freiner l'irrésistible ascension du parfumeur de la reine. Rien. Sauf peut-être la révolution. En 1789, c'est tout ce petit monde du luxe le plus extrême qui s'effondre et ceux qui gravitent ne sont plus en odeur de sainteté. Par sa proximité avec la reine, qui, je le rappelle, est condamnée à mort et exécutée le 16 octobre 1793...
Ça vous fait toujours mal, toutes ces années après, j'ai l'impression que ça,
oui,
ça a du mal à passer.
Ça a du mal à passer, comme vous dites. Enfin, cela dit, de toute façon, maintenant, elle serait morte. Quand Jean-Louis Fargeon est emprisonné pendant 6 mois. Au terme d'un long procès, il est finalement libéré le jour de la chute de Robespierre en juillet 1794. Le parfumeur a réussi l'exploit peu commun d'échapper à la guillotine en pleine terreur. Il faut dire que Jean-Louis Fargeon manifeste des convictions républicaines, même s'il est resté fidèle à la famille royale, continuant de livrer la reine du temps de son emprisonnement à la prison du Temple.
Il va falloir nous expliquer comment il a fait quand même pour s'afficher comme républicain, sachant
qu'il
mettait des petits sachets dans le bain de la reine.
Il avait les chines souples, vous savez.
Les chines souples, en ces temps troubles,
il fallait savoir, si vous voulez, ménager la chèvre et le chou. Sous le directoire, profitant d'une accalmie après les temps plus troublés de la Révolution, les affaires reprennent. Les incroyables et les merveilleuses, jeunes extravagants en quête de légèreté, se parfument généreusement. En 1801, Jean-Louis Fargeon signe un traité de parfumerie dans lequel il livre les secrets de son art, celui de transformer l'âme humaine, ses émotions et sentiments en odeurs. Parmi les arts, écrit Fargeon, il n'en est aucun qui produise de plus voluptueuses sensations que celui du parfumeur. Le manuscrit contenant, je cite, « plusieurs secrets nouveaux pour embellir et conserver le teint des dames, effacer les taches et les rides du visage, détaille les recettes du parfumeur inspirées de la nature. Des parfums, mais aussi des cosmétiques, des pommades, des pastilles et des essences qui montrent que les préoccupations en matière de beauté n'ont pas beaucoup changé en plus de 200 ans. » Fort de son savoir-faire exceptionnel, Jean-Louis Fargeon reprend son commerce avec la nouvelle élite, celle de l'Empire. En 1806, il devient le fournisseur officiel de l'impératrice Joséphine, autre grande amatrice de parfums et de cosmétiques dont la toilette quotidienne durait 3 heures. Mais la prison a affaibli le célèbre artisan. Il meurt la même année à 58 ans, dans son appartement de la rue du Roule à Paris. Ses deux fils reprennent la maison familiale avant de se séparer pour mener leur affaire, chacun de leur côté. L'un d'eux, Auguste Frédéric Fargeon, devient même, à son tour sous la Restauration, le parfumeur du roi et de la duchesse de Berry.
Des républicains de cœur, comme on peut le voir, Stéphane,
oui.
De génération
enfin,
en génération.
Vous savez, quand vous êtes fournisseur de la cour, les affaires n'ont pas d'odeur. Un savoir-faire qui se répand finalement comme une traînée de poudre parfumée, forcément.
Europe 1, historiquement vôtre.